Alors bienvenue.
Périphérie.
Dans mon quartier.
Et toi, ton.
Dans ma plus belle cité du monde. Il y a toujours plein de chemins. Moi, quand je traverse la cité avec un copain qui connaît bien le quartier, pour aller d'un endroit à un autre, il y a un moment, lui va prendre à droite, moi je vais prendre à gauche, et tous les deux, on va dire, mais non, on a tous les deux raison. Et c'est vraiment ça, ici. Pour moi, c'est se faire son chemin avec les pieds et avec la tête aussi. Je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans quand mon frère, à ma demande, sortit le dictionnaire poussiéreux de la commode pour y lire l'origine du nom de notre nouveau quartier. Maladrerie, hôpital de lépreux. Le lendemain, la maîtresse, me trouvant une pâleur inhabituelle, m'envoya à l'infirmerie scolaire. Ce ne fut qu'après un long silence, les coudes sur les genoux, les yeux bas, la tête retombant sur mes paumes que je déclarai au psy, sans remuer les lèvres, j'ai la lèpre, c'est tout. Et ça, c'est véridique. Donc il n'y a plus de lépreux, on a mis des chômeurs maintenant. Voilà. Ils veulent acheter la cité. Je vous en fais visiter. Donc, c'est une bibliothèque où on peut parler ici.
Oh bah bienvenue dans notre bibliothèque alors.
Pour nous vraiment qui avons grandi là, l'ouverture de cette bibliothèque ici, c'était vraiment grandiose pour nous.
Bah oui, forcément.
Ouais. Faire transpirer le stylo, faire parler les buvards, quitter la spirale, quitter l'éternel provisoire, j'irai voir là-bas si l'herbe est plus verte, si le béton est moins gris, j'irai frapper à toutes les portes, mais plus jamais aux portes de Paris. Ce que le Tipex doit au stylo, ce que le ciné doit à Bardot, ce que le jour doit à la nuit, c'est ce que le béton doit à ma vie, ma ville. Il y a des grands frères en colère. D'accord. Mais il y a aussi des mots, mais leur sourire. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que leur cité pue? Ou de croire en l'avenir? On y va, on continue.
Donc,
par là-bas.
Je ne sais pas si aussi il vous a dit, mais il venait ici quand il avait 14 ans. Hein, donc on
ouais.
Se connaît depuis qu'il a 14 ans.
Et j'ai le privilège d'avoir été viré de la bibliothèque pendant un an.
C'était pas un an, tu t'imagines, c'était un an.
Mais pour moi, dans ma tête, c'était un an. Ça a duré.
Pas un an, c'est impossible.
J'ai pris un an ferme de pas de bibliothèque.
Non. C'était 2 mois, ou mais pas un an.
Ouais.
Allez, venez. Et tu me préviens à l'avance, ça aussi.
La veille, quoi. Vous entendez le bruit des voitures?
Oui.
Il y en a pas. Les habitants, vous pouvez venir aussi. Ça, c'est l'atelier de Pierre Terrasson, qui s'est installé ici au tout début des années 80, vraiment à la construction de la cité. Ça a été le photographe pendant longtemps de Serge Gainsbourg. Moi, j'ai croisé ici Gainsbourg, j'étais adolescent. À l'époque, je m'en foutais. C'est maintenant que je le raconte. Ça a contribué à faire ce que je suis aujourd'hui, j'en suis sûr. Parce que quand on était gamin, il y avait toutes les journées portes ouvertes et des ateliers. Donc, on pouvait. Au début, on y allait pour grignoter un bout. Mais sans s'en rendre compte, on était dans un environnement propice à tout ça. Donc, il y avait les photos de Terrasson, les sculptures et les peintures de Mélie Cousani. Et ça, c'est pour moi un très, très grand privilège. Voilà. Ça devrait être obligatoire dans tous les quartiers comme ça populaires. Mettre des ateliers d'artistes, ça apporte quelque chose. Vraiment. Je m'appelle Ossine Ben, je suis né, j'ai grandi, j'habite toujours à Aubervilliers, dans le quartier de la Maladrerie.
Comment elle est née cette idée d'organiser une promenade dans la cité de la Maladrerie?
C'est né d'abord de manière vraiment très informelle, d'une copine qui connaissait un groupe d'étudiants en architecture qui avait travaillé sur la cité dans le cadre de leurs études, donc sur plan. Elle m'a parlé de cette idée-là, elle m'a dit voilà, c'est des étudiants en architecture, ils ont juste envie de voir la cité, et comme je sais que tu l'aimes et tu la connais, etc., j'ai pensé à toi. Donc je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois.
Ils n'osaient pas venir tout seuls?
Non, ils n'osaient pas venir tout seuls. Et au début, je me rappelle très très bien la première fois, donc je les ai reçus, moi j'avais pas organisé mon truc, mais comme aujourd'hui. Et on se baladait, puis ils prenaient des photos à la sauvette, tu vois, je leur ai écouté. Si vous voulez pas vous ramasser des pierres, les photos, soit vous les prenez normalement, soit vous les prenez pas. Et ensuite, des années plus tard, dans le cadre d'une pièce que j'ai jouée au théâtre Gérard-Philippe Hassani, une pièce qui s'appelle Les 5 bancs, que j'ai écrit, et dont l'action se situe dans le quartier. Et un jour, pareil, c'est des gens dans le public qui nous disent, ah ben, là, on aimerait vraiment voir ton quartier, ça nous parle, tu nous trimbales pendant 1h30 sur scène, du coup, ça me donne envie d'y aller physiquement.
Périphérie sur France Inter.
Comment vous êtes belle? Ah, ça fait trop plaisir de voir ça. Le club du spectacle. Alors, j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter Fethouma Zouani.
Bonjour.
Donc, qui est première violoncelliste.
Salut toi.
Dis bonjour. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'inviter Fethouma ou d'autres, mais Fethouma un peu plus. Parce qu'elle bosse gratuitement déjà.
Oh, arrête. Mais j'avais rien qui est gratuit dans la vie, hein. Je vous rassure.
Non, c'est clair. Non, mais bon, voilà, je ne sais pas si vous connaissez le parcours de Fethouma et de sa sœur Zaya. Donc, c'est deux sœurs, deux jumelles, et qu'on fait énormément de choses pour la musique classique, et notamment l'enseignement de la musique classique ici dans le 93.
Voilà, sur le département.
Voilà, ils font un super, super travail. On va se poser là tout simplement, et puis on va.
Et puis, je vais vous jouer un petit peu du violoncelle.
Ouais.
Ah, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais vous jouer.
Allez, on va s'asseoir ici. J'ai reçu des New-Yorkais, j'ai reçu des Brésiliens, et puis des étrangers qui venaient de loin, de l'autre côté du périph. Moi, je milite pas pour une nouvelle image de la banlieue, mais pour un nouveau regard. Et c'est juste ce que j'essaie de proposer en toute simplicité. Voilà.
Vous avez envie de la rendre poétique, enfin de le rendre poétique, votre quartier ?
Justement, non. Il est poétique, mon quartier. J'ai juste envie de donner à voir cette poésie-là. J'ai presque envie de dire que ceux qui ont une image déformée de la banlieue, c'est leur problème. C'est super facile de voir autre chose. Voilà, moi j'ai l'habitude de voyager et j'essaie toujours de regarder ce qu'il y a derrière la carte postale. Ça me semble logique. C'est vraiment une sorte de regard pour moi.
Mais vous voulez quand même donner une image un peu idyllique. Le fait de faire venir une musicienne, par exemple. Il n'y a pas une violoncelliste qui joue tous les jours dans le petit jardin de la maladrerie.
Malheureusement, non.
Votre balade, ouais. Elle est onirique.
Oui. Oui, oui, c'est clair.
On s'attend à voir Alice au Pays des Merveilles, là.
On va peut-être la rencontrer. En tout cas, le lapin, c'est sûr. Après, bien sûr, je sais que j'idéalise. Je peux vous parler de tous les problèmes qu'il y a, mais est-ce que c'est si important que ça ? La mala, c'est d'abord une couleur qui saute aux yeux, qui explose aux yeux. Couleur béton, couleur bêtise. Ce gris qui dévore le regard des adultes du quartier, mais qui épargne pour un moment celui des enfants que nous étions alors, prenant possession de notre nouvelle heure de jeu. Ce gris qui me faisait penser que la cité n'était pas finie, qu'elle était en devenir. Ce gris, nous avons maintes fois tenté de l'apprivoiser, de le domestiquer. Chacun sa manière, ses moyens, pour dégriser ces murs qui ne demandaient que ça. Tout le quartier ou presque s'y est mis. Pour les plus jeunes, c'était la bombe à aérosol, le Posca, le marqueur, voire le gros feutre. Du tag insignifiant aux fresques les plus belles. De Nick Labac, gribouillé à la hâte sans recherche de style, juste histoire de dire. À l'épitaphe soignée, appliquée le temps d'une nuit sacrée, où des plus tout à fait gosses mais pas encore tout à fait adultes, rendent un ultime hommage à l'un des leurs tombé trop tôt, trop jeune, sur une moto trop rapide, sans casque, ou sous le feu d'une bavure d'un flic trop nerveux, fraîchement débarqué dans notre jungle. Lu sur une fresque, quand la mort porte un uniforme, les balles perdues retrouvent leur chemin. À la manière d'un flic trop zélé, la cité, je la mettrai en cellule de dégrisement. Fini la grisaille et les gueules de bois. On va se balader un petit peu.
Périphérie, Édouard Zombo.
Alors, là on est à Saint-Denis, hein, dans le 9-3, 9 cubes, 93 quoi. À l'époque, on était 60 maraîchers ici, entre Saint-Denis, Stein et Pierrefitte.
Et là, vous êtes le dernier ?
Bah, le dernier. Voilà. Monsieur Kersanté, maraîcher Saint-Denis. Boum. Voilà, là, j'annonce la couleur tout de suite, dans le sens que j'ai plus honte de le dire que je suis maraîcher, quoi. Et puis à Saint-Denis. Alors, des fois, les gens me disent à Saint-Denis, pourquoi pas à Paris ? Bah, je dis presque, on est à 5 bornes. Alors, d'ici, bah, on voit le jardin, bien sûr, droit devant nous, là. Hein. Et fut un temps où on voyait très bien la tour Eiffel, Montmartre, on le voit encore, ça dépend où on se place, la basilique de Saint-Denis, puisqu'on est à côté, hein, on est en ligne, là on est à 5 km de Paris, donc on peut dire qu'on est quasiment en pleine ville. Quoi.
Si on tourne la tête, là derrière il y a la cité du Clos Saint-Lazare,
voilà.
Et à côté il y a le McDo.
Et il y a le McDo, c'est un peu anachronique, hein. Voilà. Ouais. Puis le pire c'est qu'il nous prend, il nous prend même pas d'autres salades, hein. Elle est trop fragile, trop bonne.
Bon, et alors là, vous cultivez quoi ici ? Des salades ?
Alors là, ben, ce que vous voyez là, c'est la salade, c'est la deuxième récolte. Hein, du persil devant nous aussi. Du persil, où c'est la deuxième aussi, deuxième, troisième récolte. Radis, oignon blanc. Et on fait un petit 3 millions de salades dans l'année. Quoi. Ça, c'est mon premier tracteur. J'en ai passé des heures là-dessus. Là. Bon, tu appelais ça mon petit poney. Et je labourais tout ici avec ça. C'est pour gros. Donc là, ce que vous voyez, moi je suis né dans cette maison-là, en 41. Ouais, pépère, il est encore là. Ça fait à l'époque, j'ai commencé à bosser à 13 ans, parce que certificat d'études, le père, il m'a pas demandé ce que je voulais faire, il m'a dit, bon, t'as ton certif, allez, au boulot. Et bah, j'y suis encore.
Alors ça, c'est l'atelier de mécanique.
Voilà, France Inter, qui vous explique un peu l'histoire de la maison. Voilà, donc Christian, bah, qui s'occupe de la mécanique, qui s'occupe de tout, polyvalent.
Ça c'est l'équipe ?
Ben ça c'est une partie de l'équipe et il y a déjà 20 ans de ça. Mais enfin vous voyez, il y a voilà, toute l'équipe, donc ma femme qui est là, ma fille, et puis ben, tout le mécano qui est là. Avant on ne nous regardait pas, on était des cutéreux. Même nous on avait honte de dire qu'on était maraîchers. En étant en ville, la première femme que j'ai fréquentée, je n'ai pas dit que j'étais maraîcher, j'ai dit que j'étais étudiant.
À votre femme?
Oui. Et puis le lendemain, elle me dit, mais t'es étudiant dans la culture. Bah, je dis, c'est un peu ça. Ouais. Donc là, maintenant, au contraire, on a pas honte de dire qu'on est maraîcher, au contraire. Donc c'est les gens de la ville qui viennent nous voir maintenant.
C'est une fierté pour vous, justement, d'être le dernier des Mohicans, en quelque sorte?
Bon, une fierté, on va pas dire comme une... Non, pas une fierté, mais content quand même. Et puis, ouais, c'est sympa, quoi. Bon, peut-être un petit peu quand même aussi, je pense, mais... Bah oui, c'est on aurait jamais... On aurait dit ça il y a 40 ou 50 ans, qu'on s'est encore maraîché en 2012 à Saint-Denis. On aurait dit, mais tu rêves ou quoi, là? Et la preuve, bah, vous voyez, on y est encore.
Il n'y a pas un petit côté musée, justement, dans votre exploitation, entre guillemets? Vous êtes aidé par la ville de Saint-Denis. Il y a des gens qui viennent vous visiter pour voir. Ouais, vous êtes devenu une curiosité, en quelque sorte.
Oui, un peu comme dans la soupe aux choux, quoi. C'est marrant, quoi.
C'est la seule ferme au monde où les ouvriers peuvent venir en métro, ici?
Oui, peut-être, oui. Oui, on peut le dire, oui. Eh oui. Bah, d'ailleurs, la chanson que chante Dutronc, là, c'était un petit jardin au pied du métro parisien qui sentait bon le bassin parisien.
Périphérie sur France Inter.
Je pense pas travailler contre le béton, je travaille... Entre le béton, quoi. Mais ça ne me... Non, ça ne me dérange pas trop.
Vous êtes la troisième génération, hein?
Troisième, ouais.
Donc c'est votre grand-mère qui est arrivée en 1918.
Voilà, de Bretagne. De Bretagne, avec ses sabots.
Et alors, en quelle année, vous avez récupéré l'exploitation?
Alors, j'ai récupéré en... Donc, j'ai déjà jusqu'à l'armée. Bon, j'ai fait l'armée. Après, j'ai retravaillé en venant de l'armée. Et puis là, je fréquentais ma première femme qui est décédée et qui, elle, travaillait dans le notariat. Alors ça, les parents, ça leur plaisait pas beaucoup. Alors comme ils voulaient pas que je me marie, eh bien je me suis tiré. Et puis je suis revenu, et puis en 83, bon ben là j'ai dit, je vais tout reprendre. Moi je savais que ma place était là.
Elle est assurée, la suite?
Ben la suite est assurée, pas facile comme je vous ai dit, déjà une. Ici, bon, moi j'y suis né, j'y suis bien, ma fille aussi. Par contre, mon gendre, lui qui est de l'Oise, venir à Saint-Denis, à ça, il aime pas trop. Hein. Alors déjà, il y a ça. Et comme je vous ai dit, le métier, il est plus tellement viable. Ça paraît bizarre. Hein. Moi, je marche comme beaucoup de maraîchers, comme beaucoup d'autres, à coup d'emprunt, et j'ai vendu même du bien privé pour que l'entreprise tienne.
C'est une forme de militantisme, presque, j'ai l'impression, à vous écouter.
Je compare des fois comme un marin. Vous voyez, un marin, je trouvais drôle. Un marin, qu'est-ce qu'il fout sur un bateau? Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant d'être sur un bateau. La mer, il n'y a rien autour. Et pourtant, ils sont accrochés à leur bateau. On voit même Tabarly, il est mort sur son bateau. Il est mort comme un vrai marin, content, je pense. Bon, bah là, c'est ma vie. Hein. On est sur le même bateau.
Vous gagnez votre vie?
Ah bah, je gagne ma vie, alors, faut pas dire ça à ma femme, elle va dire, mais non, bah, je gagne ma vie, je vis, même s'il y a les emprunts qui sont au-dessus de ma tête, même s'il y a tout ça. Bon, il faut être un peu plus qu'optimiste, il faut être un peu, des fois, un peu fou, quoi.
Vous avez hésité à acheter le gant, parfois?
Ah, bah oui, bah ça, c'est un petit peu comme tout le monde, et même plus que jeter le gant, hein, des fois, aller même plus loin. Hein. Et d'ailleurs, je crédite pas ceux qui le font, mais vis-à-vis des enfants, on n'a pas le droit, quoi.
Vous les avez vus, les promoteurs, venir frapper à votre porte?
Oui, je me rappelle, ils étaient venus nous voir pour nous proposer de l'argent pour laisser tomber notre exploitation, quoi. Mais à l'époque, je me rappelle, je me revois encore, là, à la cuisine, je leur avais dit, mais moi, c'est pas de l'argent que je veux, c'est du terrain pour travailler.